Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier, bonsoir.
Bonsoir Myriam.
Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos à vos côtés avec à la une le spectre d'une grève plus générale.
Eh oui, le mouvement pour les salaires s'étend à la SNCF et à la RATP. Pendant ce temps-là, dans les raffineries, négociations ce soir chez Total et reprise du travail sur un premier site Esso près de Marseille.
Et vous, êtes-vous derrière les grévistes? Sondage RTL BVA ce soir, 66% d'entre vous souhaitent un déblocage par la force. Pour autant, vous êtes 57% à comprendre la mobilisation. Les autres titres de l'actu, Marion.
La fin d'une saga judiciaire 28 ans après la condamnation de Mar Haddad, la justice a tranché. Il n'y aura pas de procès en révision. Et puis la grippe, déjà, qui pointe le bout de son nez, c'est déjà trop tôt. Et oui, vous entendrez qu'on s'est trop relâché.
À 18h15, Sylvain Tesson sera notre invité avec Bernard Lehune. Nous recevrons l'écrivain voyageur. Son nouveau livre Blanc sort aujourd'hui. Il y raconte sa traversée des Alpes à ski. 18h30, laissez-vous tenter dernière avec une chanson inédite de Queen. Oui, oui, à 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et toute la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, vous allez découvrir qui se cache derrière les armées numériques, le PSG en aurait utilisé pour discréditer Mbappé. On va vous emmener dans les coulisses de ces machines à détruire des réputations. Au menu également, les conducteurs d'électriques qui se marrent devant les pompes à essence et la baguette artisanale la moins chère de France.
19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Le temps deux fois par demi-heure avec Peggy Broche ici présente avec sa grosse écharpe. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Bien gris et bien pluvieux au nord.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et à 8 jours du début des vacances de la Toussaint, la crainte de départ compliqué par les grèves.
À la difficulté de faire le plein s'ajoute la perspective d'une grève dans les transports. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Les principaux syndicats de cheminots ont annoncé aujourd'hui qu'ils rejoignaient le mouvement.
À commencer par le premier d'entre eux, comme on vous le révélait dès 16h sur RTL, la CGT Cheminots. Premier syndicat à la SNCF appelle à la grève mardi prochain. Le syndicat demande des hausses de salaire et proteste contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie. Mais c'est aussi le cas de Sudrail, quatrième syndicat, qui appelle aussi les cheminots à cesser le travail dès mardi prochain. Ce sont dans les deux cas des appels à la grève reconductibles, c'est-à-dire que les assemblées générales auront lieu mardi et les grévistes décideront de la poursuite du mouvement ou non.
Alors la RATP sera aussi de la mobilisation mardi. La CGT, premier syndicat du transporteur, l'a annoncé cet après-midi.
Alors transport, mais aussi énergie, commerce, visiblement la CGT active toutes ses fédérations. C'est quoi l'objectif Arnaud? La grève générale?
Si possible, oui, même si pour le moment, seul Sudrail a rejoint la CGT. Mais il est vrai que les appels à la grève dans les fédérations se multiplient depuis ce matin. Prenez par exemple la fédération CGT des commerces et services. Elle appelle à cesser le travail dès aujourd'hui et ce jusqu'à mardi prochain. Elle rassemble les hôtesses de caisse, les serveurs ou encore les salariés de la logistique. Elle invite tous les travailleurs et les travailleuses à se mobiliser d'une seule voix.
Et ce soir, CGT, FO, Solidaires, FSU et UNSA se réunissent en intersyndicale pour évoquer cette journée de mobilisation interprofessionnelle mardi prochain. Et en attendant mardi, votre regard à vous sur ce mouvement partie des raffineries et des dépôts de carburant.
Effectivement, un premier sondage sur votre état d'esprit. Ce mouvement, vous le comprenez sans pour autant le soutenir. C'est ce qui ressort, Marie Mollet, de cette enquête BVA pour RTL que nous vous dévoilons ce soir.
Exactement, les Français comprennent majoritairement le mouvement de grève à 57% contre 43% qui ne le comprennent pas. Ce qui veut sans doute dire que les Français entendent les revendications salariales d'un secteur qui a vu ses profits bondir. C'est l'argument du partage de la valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela ne se traduit pas par un soutien au mouvement. 63%, les deux tiers des Français ne le soutiennent pas. C'est tout le paradoxe de ces résultats, explique Christelle Craplet de BVA Opinion.
On peut expliquer un peu ce hiatus de deux façons. Un impact tellement fort au quotidien, on a vu dans les reportages, c'est que aux stations-service qui fait que voilà, il n'y a pas de soutien. Et puis c'est peut-être aussi quelque chose lié à la méthode, c'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre quelque part les revendications autour du salaire, mais ne pas soutenir la méthode de la grève dure et du blocage des raffineries.
Et puis autre résultat de cette vague, 66% des Français sont favorables à une intervention de l'État pour débloquer les raffineries, de force s'il le faut. Ça c'est toute la stratégie du gouvernement, miser sur l'exaspération de l'opinion contre la CGT, qui elle mise sur la contagion et la grève interprofessionnelle après les réquisitions.
Donc deux tiers des Français attendent un déblocage de force, s'il le faut, des raffineries. 4 sur 7 sont ce soir à l'arrêt, dont 3 chez Total, où une porte est désormais ouverte.
À l'initiative de la direction sous pression. Ce matin encore sur RTL, le ministre de l'économie estimait que le groupe qui a fait plus de 10 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre avait la capacité, donc le devoir, d'augmenter les salaires de tous les salariés.
Alors visiblement, message reçu. Bonsoir Marie Garrier.
Bonsoir.
Total a invité ce soir les syndicats à négocier.
Oui, des négociations, le mot est prononcé, alors qu'hier on en était seulement au stade de la concertation bilatérale. Alors il s'agit cette fois de négociations salariales collectives, tous autour de la table, la direction et les syndicats représentatifs, CFE-CGC, CGT, CFDT et la Confédération Autonome du Travail, à partir de 20h au siège à la Défense près de Paris. Initialement, Total Énergie conditionnait l'ouverture des négociations à l'arrêt des blocages. Alors, il y a toujours des blocages, mais la direction dit avoir tenu compte, je cite, de l'attitude responsable des équipes concernées par la réquisition décidée par le gouvernement aujourd'hui au dépôt de Dunkerque. Alors pour base de négociation, eh bien il y a les dernières annonces ce matin du groupe pétrolier, un mois de bonus versé en décembre et des augmentations de salaire de l'ordre de l'inflation, plus 6%. La CGT depuis le début de la grève demande 10%. Tout l'enjeu ce soir, ce sera de trouver un terrain d'entente.
Voilà, début donc de ces négociations qui commencent à 20h. Du côté d'Esso ExxonMobil, là, la reprise est en route. En tout cas, sur le site de Fos-sur-Mer où vous êtes pour RTL, Étienne Baudu, les grévistes ont décidé aujourd'hui de reprendre le travail.
Oui, tout à fait. C'est probablement un changement de stratégie de la part de la CGT d'Esso. Elle n'avait en réalité plus aucune marge de manœuvre pour négocier une revalorisation salariale, puisque les deux syndicats majoritaires, la CFE-CGC et la CFDT, avait déjà signé un accord. Lionel Abriol, délégué CGT, explique que le mouvement va prendre une autre forme.
Aujourd'hui, ils vont toujours essayer de récupérer leur dû, mais ils vont le faire autrement. Même si ça passe par le redémarrage de raffinerie, ça va se faire très 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 lentement, en sécurité. Ça va maintenant se jouer avec notre direction locale. Ça va se faire en interne, entre la direction et nous.
Alors les drapeaux de la CGT et les calicots appelant à la grève ont été retirés des grilles. Les portes de chargement des camions citernes sont ouvertes et les premières rotations devraient avoir lieu demain matin vers les stations-service de la région. Quant à la situation à la raffinerie de Port-Jérôme, l'autre raffinerie Esso, il semblerait qu'on ait affaire, nous dit-on ici, à un baroud d'honneur.
Voilà, l'approvisionnement des stations-service qui va donc prendre du temps et en attendant plusieurs professions continuent de s'inquiéter, notamment les transporteurs routiers qu'ils font savoir qu'ils sont sur le fil du rasoir.
Votre journal continue dans un instant. C'est l'un des dossiers les plus médiatiques, les plus anciens de la justice française. On l'a appris aujourd'hui. Il n'y aura pas de nouveau procès dans l'affaire Radad. À tout de suite.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
18h09, la suite de votre journal maintenant dans RTL Soir avec l'heure de l'épilogue dans l'affaire Radad et son célèbre Omar Mathieu.
Inscrit en lettres de sang sur un mur à la défense de l'ancien jardinier Omar Radad, condamné pour le meurtre de Ghislaine Marchal, puis gracié mais jamais innocenté, souhaitait une révision de son procès. Mais la demande, Cindy Hubert, a été rejetée aujourd'hui.
Oui, maître Novakovic sort le visage des faits. Son premier coup de fil est pour Omar Radad.
Oui Omar, c'est maître Novakovic à l'appareil. Je n'ai pas une bonne nouvelle.
La défense misait beaucoup sur les progrès de la science en matière d'ADN. Elle avait donc demandé qu'un laboratoire soit désigné pour analyser plusieurs empreintes génétiques inconnues des ADN retrouvées sur la scène de crime.
La commission d'instruction a considéré qu'au motif qu'il y a eu peut-être de la pollution et peut-être effectivement que ces ADN n'auraient pas pu parler, considère que les ADN ne pouvaient pas être datés. Et la requête de M. Omar Radad a ainsi été rejetée. Je suis absolument scandalisée par cette décision. Je ne lâcherai jamais Omar Radad. Nous allons saisir la Cour européenne des droits de l'homme et je porterai sa voix. Ma détermination est encore plus forte que jamais.
Ce sera donc l'ultime recours pour espérer peut-être un jour une hypothétique révision.
Cindy Hubert, la contre-attaque du maire de Saint-Étienne, Gaël Pardriot, accusé de chantage à la sextape sur l'un de ses anciens adjoints. Il porte plainte contre son parti Les Républicains, qu'il a récemment exclu. Plainte pour diffamation, plainte aussi pour injure publique contre le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Et puis là, c'est la promesse d'une riposte qui a été formulée. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a prévenu que toute attaque nucléaire de la Russie contre l'Ukraine entraînera une réponse militaire des Occidentaux si puissante, je cite, que l'armée russe sera anéantie.
RTL Soir.
18h11, nous sommes, regardez le calendrier, le 13 octobre. 13 octobre, et voilà que l'on parle déjà de la grippe.
Alors, on n'est évidemment pas encore au stade épidémique, mais c'est tout de même particulièrement tôt, Agathe Landais, de voir le virus circuler au début de l'automne.
Oui, les syndromes grippaux représentent en ce moment 2% des actes de SOS médecins, 1% des passages aux urgences. Donc c'est évidemment très peu. On est loin de l'épidémie, mais effectivement, c'est très précoce. D'habitude, la grippe nous touche plutôt fin novembre, voire en décembre. L'an dernier, c'était même encore plus tard, puisque l'épidémie avait eu lieu en mars-avril. Alors pourquoi ces cas si tôt dans la saison? Les médecins nous expliquent que ça fait 3 ans que la grippe n'avait quasiment pas circulé, grâce au confinement et aux gestes barrières. On est donc moins immunisé cette année, ce qui rend la vaccination d'autant plus indispensable cet hiver pour les plus âgés. Elle commence, on le rappelle, la semaine prochaine. Les médecins conseillent aussi un retour des gestes barrières, masques et lavage des mains, qui sont également efficaces, on le rappelle, pour se protéger du Covid et de tous les virus hivernaux, rhume, bronchite, gastro-angine et la bronchiolite, qui d'ailleurs sévit très très fort en ce moment chez les petits.
Agathe Landais, merci. Retour des gestes barrières. Donc, le foot ce soir, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence à 18h45. Rennes face au Dynamo Kiev, Nantes face à Fribourg à 21h, Monaco opposé aux Turcs de Trabzonspor et Nice contre les Tchèques du FC Slovaque.
C'est noté. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain.
Peggy, vous voyez ma tête en fait, c'est ça.
Je vois votre mou, oui, dubitative.
Oui, parce que le temps va être bien gris encore demain avec de la pluie dès le matin, de bonnes pluies entre la Bretagne et la Normandie. Du sud-ouest au nord-est, quelques pluies éparses. Il n'y a que dans le sud-est que ça restera sec et plus ou moins nuageux, mais moins que sur le reste de la France. Et dans l'après-midi, eh bien, les bonnes pluies du matin de la Bretagne vont gagner toute la région nord, toutes les régions au nord de la Loire, entre la Bretagne, l'Île-de-France, la Normandie, d'ailleurs, elles seront bien soutenues hein, jusqu'au Grand Est. Plus au sud, on aura beaucoup de nuages et quelques faibles pluies uniquement sur les reliefs. Et on va retrouver quelques éclaircies sur les Pyrénées. Ça restera beau près de la Méditerranée. Les températures de 16 à Cherbourg à 26 degrés à Perpignan. Ça reste très doux quand même dans le sud. 17 à Metz, 18 à Paris, 20 degrés à Grenoble, 22 à Tarbes, 23 à Montélimar et 25 à Montpellier.
Merci Peggy. On va marquer une toute petite pause en RTL Soir et puis ensuite on va prendre de la hauteur direction les cimes. Sylvain Tesson sera notre invité, l'écrivain voyageur a traversé les Alpes-Skis, il vient de nous rejoindre en studio, il signe Blanc, nouveau livre, il va nous raconter l'effort, le froid, le vent et ses réflexions aussi sur le monde d'en bas juste après ça, tout de suite.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15. Hello. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h17, bonne fin de journée, vous écoutez RTL Soir et avec Bernard Lehu, notre monsieur littérature. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Julien.
Nous vous proposons maintenant de prendre de la hauteur, de l'altitude avec notre invité, écrivain, voyageur à succès. Bonsoir Sylvain Tesson.
Bonsoir.
Votre nouveau livre, Blanc, paraît aujourd'hui même chez Gallimard. Blanc parce que vous y racontez votre épopée à ski et en chaussures à crampons, la traversée des Alpes, de Menton à Trieste, en passant par l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, traverser en trio des kilomètres avalés dans le froid, le vent, face aux éléments. Nos auditeurs se demandent peut-être pourquoi s'infliger un tel défi. Vous écrivez « Nous poursuivions un rêve d'enfant, l'école buissonnière géante ». C'est une quête ou c'est une fuite, ce voyage ?
Les deux, un peu les deux en général. C'est-à-dire que c'est une fuite parce que dès qu'on chausse ses skis et qu'on part dans la montagne, c'est la liberté. On échappe à l'ennui, on échappe à la grisaille d'une vie. On est parfaitement confronté à soi-même. Et puis c'est une quête parce que c'est une plongée dans un paysage où tout s'annule, le temps et l'espace. Alors il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de plonger en soi.
Et alors, dans cette odyssée, dans le blanc, vous dites que seul le geste compte, l'action pure, et vous avez cette formule formidable, la neige décape l'âme.
Oui, pour moi, elle réduit tout au seul souci d'avancer. Nos sections de randonnée réparties sur 4 ans à raison d'un mois par an, parfois c'était des heures passées au seul souci de mettre un pas devant l'autre, de glisser dans un relief qui est tout à fait annulé. Donc on a l'impression de flotter dans un rêve. Le seul son qu'on entend, c'est le cisaillement des skis sur la neige. Il faut faire attention à l'endroit où on passe. Alors pour cela, le guide de haute montagne, Daniel Dulac, était évidemment un guide suprême. Moi, je m'en remettais à lui.
C'est votre ami, votre compagnon de cordée, en quelque sorte.
C'est un ami avec qui je cours les parois depuis 20 ans, et j'ai une confiance absolue en son instinct, en sa capacité de circuler. Mais moi, je voyais ça comme un voyage absolu, une espèce de définition suprême du voyage, où on réussit enfin à s'oublier complètement.
Vous acceptez à la fois le danger et la souffrance. D'ailleurs, vous inventez un barème de cette souffrance qui tient en trois lettres, le DAF. Expliquez-nous ça.
Oui, ce que je vais appeler le DAF, c'est l'acronyme de la douleur, de l'angoisse et de la fatigue. Alors, c'est la réduction à une comptabilité du pire de la journée. La douleur, c'est quand on est percu de, je sais pas quoi, de courbatures ou qu'on a fait une mauvaise chute. L'angoisse, c'est parce qu'il y a toujours la menace de l'avalanche au cours de tous ces mois qu'on a passé dans la montagne. Puis la fatigue, c'est la fatigue, c'est quand on accumule les journées et les mètres de dénivelé. Parfois on montait 2000 mètres de dénivelé par jour. Mais tout ça, c'est la part, j'allais dire, maléfique du raid à ski. Mais il y a aussi une part bénéfique qui était tous ces petits malheurs, qui sont des petits tracas, sont lavés par la contemplation permanente et la traversée de la beauté, en fait.
Et alors, ce blanc, avec un B majuscule, hein, il faut le souligner sur la couverture du livre, vous dites que ça n'est pas un paysage, c'est une substance. Qu'est-ce que vous entendez par là, Sylvain Tesson ?
Mais c'est une substance dans le sens où c'est une patrie, élémentaire. C'est la neige. La neige, c'est à la fois spatiale et en même temps temporelle. C'est une couverture qui recouvre le relief, qui donne une autre forme au monde, qui est une forme qui annule d'ailleurs le relief, qui annule la vision. Parfois on a l'impression de s'enfoncer dans une sorte de rêve éveillé, d'éclat. Et puis c'est temporel parce que c'est saisonnier, donc ça va fondre. Ouais. On ne fait que glisser sur une surface éphémère. Et pour toutes ces raisons-là, c'est beaucoup plus une substance qu'une matière. Une substance dans laquelle on s'enfonce, et une substance qui finit d'ailleurs par vous envahir. Totalement, non pas vous ensevelir, mais vous envahir au point que vous finissez par ne plus avoir de regrets, plus avoir de souvenirs, plus avoir de désirs ni d'ambition. Vous êtes ramené au seul principe d'avancer.
Vous ensevelir, vous venez de prononcer ce mot. Est-ce que vous avez eu peur au cours de ces randonnées à travers les Alpes à ski et l'hiver ?
Moi, j'ai pas tellement le vertige sur les parois rocheuses où je grimpe très souvent, mais je trouve que les axes de perspective que le regard capte quand on monte ou qu'on descend des pentes à 50 degrés avec de la glace et où il y a une espèce de convergence de toutes les lignes de fuite et que vous êtes sur vos deux quarts de ski en train d'essayer de monter et de tenir l'équilibre. Alors là, oui, ça me faisait souvent peur et j'ai ressenti des vertiges qui étaient des craintes de la glissade. Et alors que je n'ai pas la crainte de la chute.
Ouais. En prenant de la hauteur, vous interrogez aussi notre monde d'en bas, la termitière, comme vous écrivez, et puis ce monde d'en bas. Dans le livre, dans cette épopée, il vous rattrape, il coupe votre élan avec le début de la pandémie et cette question se pose, est-ce qu'il faut ou non redescendre ? C'est un dilemme, en tout cas ça l'est pour vos deux compagnons, pas franchement pour vous.
Non, en fait c'est plus un danger qu'un dilemme parce qu'il y a un danger de l'alpiniste qui consiste à croire que sous prétexte qu'on est dans les beautés, dans les altitudes, dans l'élévation, dans la pureté du ciel et de la terre...
Ça nous prémunit de tout ?
Oui, c'est le danger de croire que par cette élévation du corps, il y a une élévation morale. C'est une espèce de complexe de supériorité mal placé. Alors qu'en fait, vous êtes là au sommet en train de vous dire « Oh mon Dieu, jamais je ne redescendrai dans ce monde qui est en train de partir vers un destin funeste. » Et puis au bout d'un moment, il y a une rafale de vent, vous remettez votre écharpe, et puis la réalité des choses vous dit « Mon petit ami, la seule chose à faire, c'est d'aller gagner le refuge pour manger ta soupe. » Donc on est très très vite ramené à sa réalité et on arrête de se prendre pour une espèce de statue sur un piédestal.
Vous avez d'ailleurs une formule que je trouve extraordinaire, il faut rappeler à nouveau la qualité de votre écriture. Vous dites l'alpinisme, c'est l'alternance quotidienne entre la vie de sportif et la vie de vieille dame, entre justement cette journée où on brave les plus grands dangers et puis le soir on n'a qu'une hâte, arriver au refuge, c'est de préparer sa petite soupe, son petit thé bien chaud.
Pour apprécier l'oisiveté, c'est ce que vous dites.
Oui, c'est une oscillation qui est assez merveilleuse entre des difficultés qui sont vraiment indéniables, une espèce de lessiveuse, de froid, de vent, et d'effort et de dénivelé. Et le soir, le cocon du refuge, presque maternel en fait, le bois, la chaleur, c'est la définition du luxe en fait, c'est le luxe comme cessation de la souffrance plutôt que comme sophistication. On n'a pas besoin de manger des écrevisses à la truffe dans des jacuzzis de champagne, ça m'est jamais arrivé d'ailleurs, et je souhaite que ça ne m'arrive jamais. Je préfère un thé chaud après avoir eu froid, et je préfère un poêle dans un chalet en bois après une tempête sur un glacier.
Alors, vous écrivez ici sur les Alpes, mais vous avez beaucoup aussi voyagé, on le sait, en Russie, écrit sur la Russie. Je voudrais avoir votre regard sur ce conflit qui agite l'actualité depuis des mois maintenant. Le slavophile que je suis est malheureux, c'est ce que vous avez expliqué il y a quelques semaines.
Oui, parce que moi, mon amour pour la profondeur slave de l'Europe, pour la Russie, pour la part d'absolu et de violence que tous les arts et les lettres russes ont donné au monde, n'a pas varié. Moi, je distingue les gouvernements et les peuples que le gouvernement gouverne. Je n'ai pas du tout pratiqué une espèce de russophobie générale et totale. Je suis malheureux parce que j'ai vu une guerre, un déchirement intérieur, enfin fraternel. Mais maintenant, la réalité m'empêche empêche que cette russophilie corrige ma peine, quoi. Je veux dire, il y a un agresseur et un agressé, il y a une invasion d'un pays souverain, donc maintenant il n'y a aucune discussion possible.
Vous avez beaucoup rencontré pendant vos voyages ces Russes que nous n'entendons plus aujourd'hui dans nos médias. Cette Russie qui n'est pas hyper connectée, qui n'habite pas à Moscou, pas à Saint-Pétersbourg, qui est rurale, qui est mobilisée en ce moment, on a du mal à savoir comment elle perçoit cette guerre. Est-ce qu'elle le perçoit simplement via la propagande du Kremlin, ou est-ce que, selon vous, elle commence à réfléchir avec la mobilisation ?
Il y a trop longtemps que je ne suis pas allé pour pouvoir vous donner une réponse précise. En revanche, ce que je sais, c'est que je ne pense pas qu'on puisse parler d'une Russie. Il y a des Russies de ville, il y a les Russies de la ville occidentale, des villes occidentales, Moscou et Saint-Pétersbourg. Puis il y a des fuseaux horaires de forêts qui s'étendent jusqu'au Pacifique, ou probablement là, mais encore une fois, ce sont les souvenirs de mes voyages très fréquents dans cette profondeur russe, que les Russes appellent la Gloubinka, quoi, la profondeur, où là, oui, le récit est tout autre. Enfin, on a l'impression que il ne se passe pas la même chose devant leurs yeux, parce qu'on entend des échos qui viennent du soutien à Poutine et de l'adhésion à un récit qui n'est tellement pas celui que nous vivons et que nous connaissons, que la discussion n'est même pas possible, quoi. Ce sont deux, c'est comme une tectonique qui ferait se rencontrer deux plaques, mais qui sont séparées par un gouffre absolu de perception et de considération du monde.
Pour terminer, vous étiez en Arménie il y a quelques jours, Sylvain Tesson, en plein conflit avec l'Azerbaïdjan. Vous avez écrit d'ailleurs une lettre à Emmanuel Macron. « Monsieur le Président, l'Arménie est en train de disparaître. Le chef de l'État vous a répondu hier soir à la télévision. Nous n'abandonnerons pas l'Arménie », a-t-il dit. Est-ce que vous êtes rassuré aujourd'hui ?
Je suis content que le Président de la République ait réaffirmé le lien qui nous rattache à ce petit pays chrétien posé au seuil de la steppe orientale. Je suis très heureux qu'il ait dit que la France continuerait à aider l'Arménie. J'espère que ses intentions seront suivies d'actes, et je déplore que l'agression turque et azérie, qui rêve du retour d'une immense Turquie des steppes mongoles jusqu'au Bosphore, et même peut-être plus loin en Grèce, eh bien je déplore que cette agression se perpétue tous les jours en Arménie et dans le Haut-Karabakh, sans que les Européens de l'Ouest n'y accordent la moindre importance, parce que nous sommes, certes à juste titre, effarés par les combats en Ukraine.
Merci Sylvain Tesson. Blanc, votre livre est publié chez Gallimard. Bernard Lehu.
Avec juste un bandeau sur le livre qui rappellera à vos lecteurs votre succès précédent, La Panthère des Neiges.
Blanc chez Gallimard. Merci Sylvain Tesson. Petite pause et puis RTL Soir va continuer de vous informer. Vos dessous de l'actu, on va s'interroger. Pourquoi le gouvernement patine sur la crise des carburants? Pourquoi ne l'a-t-il pas vu venir? Et puis laissez-vous tenter dernière avec tout autre chose, une chanson inédite de Queen. Oui, de Queen. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir.
Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
18h31, vous écoutez RTL Soir.
RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
Et Marion Calais vous rappelle maintenant les trois titres de l'actualité en cette fin de journée.
C'est une première photo de l'état d'esprit des Français face à la mobilisation pour les salaires. Partie des raffineries, enquête BVA pour RTL. 66% des Français favorables à une intervention du gouvernement pour débloquer les raffineries. Mouvement compris à 57%, mais très peu soutenu. Hein, 37% seulement, alors que le mouvement s'étend au transport, SNCF et RATP. Et on l'apprend ce soir à la fonction publique, à l'appel de la CGT, premier syndicat des fonctionnaires. Et puis le difficile examen du budget pour l'exécutif, nouveau revers pour le gouvernement. L'Assemblée a voté un crédit d'impôt pour tous les résidents d'EHPAD.
Agité aussi le temps, Peggy.
Oui, gris et pluvieux sur l'ensemble du pays, sauf dans le sud-est le matin. Et les pluies vont gagner surtout toutes les régions au nord de la Loire où elles seront bien marquées. Plus au sud, moins d'averses et même de belles éclaircies près de la Méditerranée. Les températures de 16 à 19 au nord, 19 à 26 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Les dessous de l'actu. Et ce soir, on vous emmène dans les coulisses d'un gouvernement face à la crise du carburant. A-t-il été surpris ? A-t-il sous-estimé la colère ? On va s'interroger avec notre service politique. Bonsoir Thomas Desprez.
Bonsoir.
À Matignon, dans les ministères, on n'a pas pris la mesure tout de suite de l'ampleur de la crise, Thomas ?
Non, on peut même dire qu'ils sont carrément passés à côté. Il y a 15 jours, Emmanuel Macron invitait à l'Élysée pour le dîner une vingtaine de proches. Le thème officiellement, c'était la réforme des retraites. Mais un homme a mis les pieds dans le plat dès le début de la soirée. Il s'appelle Édouard Philippe, c'est l'ancien Premier ministre. Et au milieu de son propos, il s'inquiète d'une grève qui vient de débuter dans une raffinerie normande à côté du Havre. L'assistance ne réagit pas. Tandis qu'une semaine plus tard, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, est interrogé sur ses pénuries. Et voilà ce qu'il répond.
Pour vous donner le chiffre que j'ai vérifié avant de vous retrouver, on était à 12% des stations qui rencontrent des difficultés sur au moins un type de carburant. Mais il n'y a pas de pénurie. Ça, c'est un point qui est important.
Pas de pénurie, simplement des tensions. Sauf que la situation est déjà bien mal embarquée. Aujourd'hui, dans la majorité, beaucoup reprochent à Olivier Véran d'avoir minimisé la crise, comme il avait minimisé les pénuries sur les masques à l'époque du Covid.
On a la sensation que le gouvernement avait d'autres priorités ces derniers jours.
Exactement. Pendant des semaines, on s'est focalisé sur le plan de sobriété, sur l'énergie, reconnaît un ministre. Résultat, personne n'a rien vu venir. Et les sujets de distraction étaient nombreux. Hein. Le budget, le 49-3, la réforme des retraites. On a regardé ça de loin, admet un député, alors que pour les Français, il n'y a rien de plus important que leur voiture. Aujourd'hui, ça nous pète à la figure. Et un ministre de citer cette élégante formule de Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille.
Est-ce qu'il y a eu aussi une erreur de stratégie ? Parce qu'on a entendu Emmanuel Macron en début de semaine taper très fort sur la CGT. Sans effet.
Oui, et il l'a refait hier soir encore sur France 2. Que la CGT permette au pays de fonctionner, lance le président, dans son viseur notamment les syndicats Dassault et ExxonMobil qui ont signé un protocole d'accord alors que la grève se poursuit. Mais il voit bien que les choses sont en train de tourner. Après les syndicats, ce sont maintenant les entreprises que le gouvernement a dans son viseur et en particulier Total, jusqu'ici plutôt épargné. Ce matin, dans ce même studio, Bruno Le Maire demande à l'entreprise d'augmenter les salaires parce que l'exécutif a bien compris que les Français ne pardonneraient pas à l'entreprise de ne pas faire d'efforts au risque justement de leur ruiner leurs vacances de la Toussaint.
Négociation en tout cas ce soir entre Total, la CGT et les autres syndicats à partir de 20h. Les dessous du gouvernement face à la crise, c'était avec Thomas Desprez pour RTL.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
18h35.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et au milieu de cette actualité agitée, une surprise musicale et un petit bonbon ce soir dans Laissez-vous tenter, dernière, une chanson inédite, mesdames, messieurs, du groupe Queen vient d'être dévoilée. Bonsoir Stephen Bellery.
Bonsoir à tous.
Ce morceau paraît 31 ans après la mort de Freddie Mercury.
Oui, alors ça n'est pas le premier inédit de Queen qui refait surface, mais c'est peut-être le plus touchant et le plus intense.
When something so near and dear to life explodes inside, you feel your soul is set on fire.
La chanson s'appelle Face It Alone. Le morceau de 4 minutes 08 a été retrouvé dans les chutes de l'album The Miracle, 13e enregistrement des Anglais, l'avant-dernier paru du vivant de Freddie Mercury. On est en 1988. Le chanteur venait d'apprendre qu'il était malade du sida. Le groupe décide de partir à Montreux, en Suisse, où il a ses habitudes. Le quatuor va y rester de longs mois. Brian May, le guitariste du groupe, m'avait raconté en janvier que Freddie s'y sentait en sécurité. Il n'était pas chassé par les paparazzi là-bas. La période avait donc été très productive pour Queen. Queen. Une trentaine de morceaux enregistrés et donc certains oubliés comme Face It Alone. La voix de Mercury y est dingue, il y chante « Lorsque quelque chose d'aussi cher que votre vie explose en vous, tu ressens ton âme, à la fin tu dois faire face tout seul ». Des paroles qui prennent un tout autre sens quand on sait ce qu'il traversait. Extrait. When something so deep and so far and wide falls down beside you, cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of. L'album
Ça donne des frissons.
Ouais, sera réédité le 18 novembre avec 6 morceaux inédits, dont Face It Alone, disponible dès maintenant.
Très 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 émouvant d'entendre cette voix absolument unique de Freddie Mercury. On se demande quand même comment ce titre a pu rester aussi longtemps dans les cartons. On était ravis de le découvrir avec vous. Merci beaucoup Steven Bellary pour ce titre inédit, Face It Alone de Queen ce soir. La suite, c'est dans quelques secondes. On va défaire le monde dans RTL Soir. Les 20 minutes d'info autrement. Cyprien Sini, Laurent Tessier, Morad Jabari entrent en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Alors hier, Mediapart révélait que le PSG avait utilisé une armée numérique pour nuire à la réputation de certains de ses propres joueurs sur les réseaux sociaux, y compris Kylian Mbappé. Ouais. Les faux comptes, ces campagnes hostiles sur le net montées de toutes pièces, est-ce que c'est courant? Qui s'en sert? Comment? On vous explique tout juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL. It's about damn time.